Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel au micro. Yves Bastide pour l'émission « Si ma mémoire est bonne ». Je voudrais vous parler aujourd'hui de quelqu'un que tout le monde connaît, sans vraiment savoir qui il était. En 1622, il y a 400 ans, naissait un certain Jean Poquelin. Son père était valet de chambre et tapissier ordinaire du roi Louis XIII. Sa mère, née Marie Creuset, était fille et petite-fille de tapissier. Alors, il est né en 1622, Jean Poquelin, mais on ne sait pas exactement quel jour. On sait qu'il a été baptisé le 15 janvier. On peut supposer qu'il est né vers le 10 ou le 11 janvier 1622, mais on n'en est pas certain. Dans la famille, il y aura 5 autres enfants, dont un frère qui s'appellera Jean. À ce moment-là, le père a trouvé que 3 fois le même prénom dans la famille, en comptant le père et 2 frères, cela faisait beaucoup. Donc l'aîné, eh bien, est devenu Jean-Baptiste. Et sa mère est morte, il avait 11 ans, elle est morte en 1633, son père s'est remarié. Jean-Baptiste a fait des études très brillantes chez les jésuites, au collège de Clermont. Il maîtrise parfaitement le latin et il a été assez brillant dans ses études. Il a ensuite fait des études de droit, toujours avec succès. Et un temps, il a été tapissier, comme son père. Il a suivi Louis XIII, le roi, à Narbonne, comme tapissier. Et c'est là qu'il va faire la connaissance d'une certaine Madeleine Béjart, qui est son aînée de 4 ans. Et puis, en 1643, donc, avant son voyage à Narbonne, Madeleine Béjart avait fondé une compagnie de théâtre, la compagnie de l'illustre théâtre. Et Jean-Baptiste va la rejoindre. Il forme avec Madeleine un couple dont on commence à parler. Le père, on peut supposer, n'était pas véritablement d'accord avec cette vocation de comédien de son fils aîné. Pourtant, il va l'aider. Il va lui donner une certaine somme d'argent pour essayer de maintenir la troupe, de l'aider. Parce que le théâtre, au départ, l'illustre théâtre, va d'échec en échec. Et c'est là que se pose un problème qui n'a pas encore été résolu. Jean-Baptiste Poquelin décide de devenir Molière. Alors d'où vient ce nom de Molière? On a dit que c'était le nom d'une famille de Tarascon qui avait été gentille avec l'illustre théâtre. On a dit que c'était le nom d'un vin, le Molière, avec un S d'ailleurs. On a dit que c'était en mémoire d'un écrivain, Molière des Sertines. En fait, on n'en sait rien et les historiens se penchent toujours sur la question. il est peu probable qu'il trouve un jour la réponse, à moins d'un miracle, mais après tout, dans la recherche, il paraît que les miracles, ça existe. D'autant plus que c'est un trait de caractère qu'on va retrouver tout au long de sa vie. Molière est particulièrement discret. Jamais il ne parle de lui. Il est généreux avec les autres, il sait les écouter. Jamais il n'aborde le problème de sa propre histoire. Tout ce qu'on sait à peu près, dans la mesure où on peut lui faire confiance, c'est ce qu'a écrit un certain Grimaret, comédien de la troupe, après la mort de l'écrivain. Faut-il croire entièrement ce qu'il écrit chez Grimaret? Certainement pas, mais on n'a pas moyen de faire autrement. En attendant, les affaires de la troupe ne s'arrangent pas. En 1645, il va faire deux séjours au Châtelet, dans la prison. Deux séjours pour dette. Oh, quelques jours, mais suffisamment pour que les bruits courent sur ce comédien qui n'arrive pas à sortir l'affaire. Lorsqu'il est en prison, sa caution sera payée par un mécène, Léonard Aubry. Et puis, cette caution sera remboursée à Léonard Aubry par le père de Molière, par Jean Poquelin. Alors, l'illustre théâtre décide de quitter Paris. Ils vont faire une tournée qui va durer des années en province, à travers la France. L'illustre théâtre va jouer à Bordeaux, à Toulouse, à Albi, à Carcassonne, à Nantes, à Lyon, à Rennes, à Béziers, à L'Avignon. Les deux premières comédies de Molière jouées par l'illustre théâtre n'ont pratiquement aucun succès. Et puis, un jour, il joue devant le roi. Et le roi apprécie cette troupe. Et la troupe va devenir la troupe de Monsieur, frère du roi. Reste à trouver sa place dans le monde du théâtre d'alors. Et c'est Molière qui comprend brusquement que sa troupe doit renoncer à la tragédie. La tragédie, c'est le domaine d'une autre troupe rivale, l'Hôtel de Bourgogne. Alors, les deux premières comédies écrites par Molière n'ont pas un succès terrible, c'est L'Étourdi et Le dépit amoureux. Jusqu'en 1659, où triomphe une pièce que l'on joue encore aujourd'hui, Les précieuses ridicules. Alors, Les précieuses ridicules, c'est une satire aussi féroce que réjouissante de ces personnes de sexe féminin persuadées qu'elles détiennent la sagesse et la culture universelle. De Péronnel, Catos et Magdelon se laissent embobiner par des abrutis qui prétendent être auteur dramatique et écrivain. Et puis, la troupe s'installe au Palais Royal. Et le succès commence à venir. Lentement, mais sûrement. Avec deux pièces d'une importance plus grande que les précieuses ridicules. L'école des maris et l'école des femmes. Et ce succès va se poursuivre avec deux pièces qui provoquent un scandale énorme. La première, c'est Tartuffe ou l'imposteur. La deuxième, c'est Don Juan. Tartuffe. Ah. On a du mal aujourd'hui, surtout que dans le titre, déjà, il y a marqué Tartuffe ou l'imposteur. Donc le mot imposteur indique dès le départ qu'il s'agit d'un faux dévot. Et pourtant, les gens bien pensants se déchaîne contre l'écrivain. Les choses vont se calmer un peu lorsque la reine-mère, la mère de Louis XIV, Anne d'Autriche, meurt. Elle était à la tête de cette vague de vociférations qui ont accompagné la création de Tartuffe. Don Juan est pareil. Non pas parce que le thème était nouveau, il n'était pas nouveau, il avait déjà été traité, notamment par les Espagnols, mais ça déclenche une volée de bois vert. Entre-temps, Molière s'est marié. Molière s'est marié avec la sœur d'Armande Béjart. Lorsqu'il se marie, il a 40 ans. Madeleine Béjart a 20 ans. Ce mariage sera loin d'être heureux. Armande Béjart est coquette, elle a des amants, notamment un membre de la troupe, Baron. Mais Molière semble accepter tout cela avec philosophie, avec résignation. Et finalement, avec une sorte de plaisir un peu étrange. Madeleine, la sœur aînée d'Armande, meurt en 1672, 10 ans après le mariage de Molière avec sa sœur. Alors là, les critiques contre Molière ont frisé l'obscénité. On a dit que Armande Béjart n'était pas la sœur de Madeleine, mais sa fille. Certains ont même dit que le père d'Armande Béjart était Molière lui-même. C'est assez abject, mais lorsque la polémique atteint ce niveau-là, finalement, et malheureusement, tous les coups sont permis. Molière va aimer, je crois, sincèrement, Armande Béjart. Thank you. Molière va poursuivre sa carrière de chef de troupe, d'écrivain, de comédien, de metteur en scène, jusqu'à sa dernière pièce, Le malade imaginaire. Et c'est étonnant parce que c'est en jouant Le malade imaginaire le 17 février 1673 qu'il a les premières attaques du mal qui allait l'emporter dans la nuit. Et lorsqu'il est pris de tremblements sur scène, le public applaudit à tout rompre, croyant que c'est un jeu du comédien. Ce n'est pas un jeu, rentrer chez lui, Molière s'alite. Il demande qu'on fasse venir Armande. Et lorsqu'Armande arrive, il est trop tard. Molière est mort. Le curé de la paroisse refuse de l'enterrer. Et il faudra l'intervention personnelle de Louis XIV pour que on accepte de l'inhumer de nuit dans le cimetière Saint-Joseph. Alors, qu'y a-t-il après Molière? Eh bien, la troupe est maintenue. La troupe continue, menée d'une main de fer par Armande, la veuve de Molière. Oh, ce n'est que bien plus tard que naît ce qu'on a appelé la Comédie française. La Comédie française est née de la fusion de la troupe de l'Hôtel de Bourgogne et de l'illustre théâtre. Et sa naissance date de 1792. Depuis, la troupe s'est installée à l'endroit où elle se trouve encore aujourd'hui. Mais tous les 17 février, devant l'ensemble de la troupe de la Comédie française, le doyen ou la doyenne lit le récit qu'a fait plus tard Grimaret de la vie de Molière. Et cela se passe sur la scène après la représentation du jour. Sur le devant de la scène, il y a un piédestal sur lequel se trouve le buste de Molière. Comme quoi la Comédie française est quand même restée fidèle à certaines traditions. C'est en 1705, donc bien après la mort de Molière, que Grimaret fait paraître la vie de Monsieur de Molière. Encore une fois, cette vie est passionnante à lire. Est-elle entièrement fiable? Ce n'est pas certain du tout. Car nous ne possédons aucun manuscrit de Molière, aucun texte qu'il ait vraiment écrit de sa main. Tout ce qu'on connaît, c'est les éditions imprimées qui ont servi pour les représentations. Et quelque part, c'est étrange que cet écrivain, qui est peut-être le plus connu de la littérature française, ait laissé si peu de traces de ce qu'il était. Pensez à des gens comme Corneille, Racine, ses contemporains. Eux, on sait beaucoup de choses sur leur vie, sur ce qu'ils pensaient, ce qu'ils voulaient, ce que Molière, rien. On a ces pièces. Et à partir de ces pièces, il nous faut reconstituer la vie de Monsieur de Molière. Au passage, je signale que ce de Molière a été voulu par l'écrivain lui-même, qui avait décidé de s'appeler Jean-Baptiste de Molière. Alors, je voudrais pour conclure ce bref panorama de l'existence d'un personnage aussi important, qui est toujours le plus joué des auteurs de la Comédie française. Il n'a été détrôné qu'au XVIIIe siècle. Il a été détrôné par quelqu'un dont on a bien du mal aujourd'hui à trouver les œuvres, enfin les pièces de Voltaire. Alors, pour un dernier clin d'œil à Molière, je vous propose d'évoquer dans Tartuffe, la pièce qui a sans doute le plus fait parler d'elle, l'arrivée du personnage principal. Première chose, le personnage principal n'arrive qu'au troisième acte. On en a parlé abondamment pendant les deux premiers actes. On ne l'a pas vu. Et puis voilà qu'il arrive. Et qu'il se présente à Dorine, la servante d'Elvire. Voici l'apparition de Tartuffe dans la pièce du même nom. Tartuffe, apercevant Dorine. Laurent, serrez ma haine avec ma discipline et priez que toujours le ciel vous illumine. S'il en vient pour me voir, je vais aux prisonniers des aumônes que j'ai. Partagez les deniers, Dorine. Que d'affectation et de forfanterie. Tartuffe, que voulez-vous, Dorine, vous dire? Ah, mon Dieu, je vous prie, avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Comment? Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. Dorine, vous êtes donc bien tendre à la tentation et la chair sur vos sens fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, mais à convoiter-moi, je ne suis pas si prompte. Et je vous verrai nu, du haut jusqu'en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas. Tartuffe, mettez dans vos discours un peu de modestie. Vous avez sur le champ, vous quittez la partie. Non. C'est moi qui vais vous laisser en repos. Et je n'ai seulement qu'à vous dire deux mots. Madame va venir dans cette salle basse et d'un mot d'entretien vous demande la grâce. Oh, hélas, très volontiers, Dorine, comme il sera douci. Ma foi, je suis toujours pour ce que j'en ai dit. Tartuffe, viendra-t-elle bientôt? Dorine, je l'entends, ce me semble. Oui, c'est elle en personne, je vous laisse ensemble. Arrive Elmire, dont Tartuffe est éperdument amoureux, comme on va le voir. Tartuffe. Que le ciel à jamais, par sa toute bonté, et de l'âme et du corps vous donne la santé, et bénisse vos jours autant que le désir le plus humble de ceux que son amour inspire. Elmire. Je suis fort obligé à ce souhait pieux, mais prenons une chaise afin d'être un peu mieux. Tartuffe. Comment de votre mal vous sentez-vous remise? Elmire. Fort bien, et cette fièvre bientôt a quitté prise. Tartuffe. Mes prières n'ont pas le mérite qu'il faut pour avoir attiré cette grâce d'en haut, mais je n'ai fait au ciel nulle dévote instance qui n'ait eu pour objet votre convalescence. Elmire, votre zèle pour moi, c'est trop inquiété. Tartuffe, on ne peut trop chérir votre chère santé, et pour le rétablir, j'aurais donné la mienne. Elmire s'est poussée bien avant la charité chrétienne, et je vous dois beaucoup pour toutes ces bontés. Tartuffe, je fais bien moins pour vous que vous ne méritez. Elmire, j'ai voulu vous parler en secret d'une affaire et je suis bien aise ici qu'aucun ne nous éclaire. Tartuffe, j'en suis ravi de même et sans doute il m'est doux, madame, de me voir seul à seul avec vous. C'est une occasion qu'au ciel j'ai demandé sans que jusqu'à cette heure il me l'ait accordé. Elmire, pour moi, ce que je veux, c'est un mot d'entretien. Tout votre cœur s'ouvre et ne me cache rien. Tartuffe, je ne veux aussi, pour grâce singulière, que montrer à vos yeux mon âme tout entière et vous faire serment que les bruits que je fais des visites qu'ici reçoivent vos attraits n'en sont pas envers vous l'effet d'aucune haine, mais plutôt d'un transport de zèle qui m'entraîne et d'un pur mouvement. Elmire, je le prends bien ainsi et crois que mon salut vous donne ce souci. Tartuffe, oui, madame. Sans doute, et ma ferveur est-elle... Ouf, vous me serrez trop. Si par excès de zèle et de vous faire aucun mal, je n'eus jamais dessein, et j'aurais bien plutôt... Que fait là votre main? Je tâte votre habit, l'étoffe en est moelleuse. Ah, de grâce, laissez, je suis fort chatouilleuse. Tartuffe t'attend le fichu d'Elmire, mon Dieu, que de ce point l'ouvrage est merveilleux, en travaille aujourd'hui d'un air miraculeux. Jamais en toute chose on n'a vu si bien faire. Elmire, il est vrai, mais parlons un peu de notre affaire. On tient que mon mari veut dégager sa foi et vous donner sa fille. Est-il vrai? Dites-moi. Tartuffe, il m'en a dit deux mots, mais madame... À vrai dire, ce n'est pas le bonheur après quoi je soupire. Et je vois autre part les merveilleux attraits de la félicité qui fait tous mes souhaits. C'est que vous m'aimez rien des choses de la terre. Tartuffe, mon sein n'enferme pas un cœur qui soit de pierre. Elmire, pour moi, je crois qu'au ciel tente tous vos soupirs, que rien ici-bas n'arrête vos désirs. Nous allons arrêter là cette lecture de Tartuffe. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Thank you.
Mm-hmm.